Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous continuons la préparation à la consécration à la Très Sainte Vierge selon Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et je vais revenir cette semaine sur la deuxième période. La deuxième période, se connaître soi-même. Je crois que c'est suffisamment important et suffisamment oublié pour que nous devions revenir dessus, approfondir le sujet. D'après le plan de Dieu, nous aurions dû naître avec la grâce. C'est-à-dire être les temples du Saint-Esprit dès notre naissance, dès même notre conception. C'est ce qui a été prévu par Dieu pour Adam et Ève et normalement pour leur descendance. Non seulement le paradis terrestre, mais surtout la vie de la grâce transmise en même temps que la vie de la nature. L'homme, un peu comme les anges, directement mis en présence de Dieu. Enfin, les anges ont dû faire un choix malgré tout. Enfin, pas faire un choix. Ont dû accepter ce que Dieu leur donnait. Et il en aurait été de même pour l'homme. Il n'y a pas que Adam et Ève qui auraient dû se soumettre et ratifier ce don que Dieu leur faisait. Ça aurait été le cas de tous les hommes. Mais nous serions nés dans la grâce, nous serions nés dans l'amitié de Dieu, une amitié pleine, entière, complète. Le péché originel fait que Adam et Ève, ayant perdu la grâce, ayant cassé le lien avec Dieu, ne peuvent plus transmettre la grâce. Nous naissons désormais ennemis de Dieu. Pourquoi ennemis? Parce que nous restons destinés à aimer Dieu et nous en sommes détournés. Bien sûr, ça n'est pas une faute personnelle. N'empêche, l'arbre avait été greffé et la greffe lui fut arrachée. Et un arbre sauvage qui n'a jamais été greffé, c'est un arbre sauvage entier, qui est-ce qu'il est? Un arbre auquel on a mis une greffe et la greffe lui a été arrachée, c'est un arbre qui a été blessé, il lui manque quelque chose. Il n'est plus à sa place. Il n'a plus sa place dans le jardin. Nous naissons privés de la grâce, détournés de Dieu. Et cet arrachage, cette grâce qui nous a été arrachée, a évidemment créé une blessure. Et même plusieurs blessures. Une blessure fondamentale qui est l'éloignement de Dieu. Nous naissons éloignés de Dieu. Il y a entre Dieu et nous comme une sorte de mur qu'il va falloir abattre. Nous naissons détournés de Dieu. Il va falloir nous retourner vers lui. Et cette blessure n'est pas seulement une blessure fondamentale et générale dans l'âme. Elle a des conséquences dans toutes nos facultés. Notre intelligence est blessée, notre volonté est blessée, notre sensibilité est blessée, à la fois dans son mouvement positif, la sensibilité est un mouvement positif et un mouvement passif, actif et passif. C'est un petit peu philosophique, mais c'est très élémentaire. Et c'est justement parce qu'on ne connaît pas les blessures. Et que du coup, on ne se méfie pas de soi-même. On ne cherche pas à se corriger, parce qu'on ne se connaît pas. Première blessure dans l'intelligence. Donc vous savez que nous avons deux facultés intellectuelles, deux facultés d'homme en tant qu'homme. C'est l'intelligence et la volonté. Première blessure dans l'intelligence, c'est l'erreur. Une intelligence qui est tournée vers Dieu est nécessairement dans le vrai. Pourquoi? Parce que être dans le vrai, c'est pénétrer la sagesse de Dieu. Un homme sage est nécessairement dans le vrai. Celui qui est uni à Dieu est sage. Il comprend Dieu. Il est au niveau de Dieu. Pour comprendre les choses. Et donc, il est nécessairement dans le vrai. Dès que nous nous sommes éloignés de Dieu, la première conséquence, c'est que nous ne comprenons plus le plan de Dieu. Nous ne comprenons plus la sagesse de Dieu. Je vous en ai dit un petit mot dans le sermon de dimanche dernier, que je vous recommande d'écouter. Vous avez été peu nombreux à l'écouter parce que j'ai eu des difficultés de chargement. Je n'avais pas accès à mon site. Et je crois que ça vaudrait la peine que vous l'écoutiez parce que j'avais des choses importantes à dire et j'ai dit des choses importantes, notamment pour les familles. Et donc, nous ne goûtons plus les choses de Dieu, nous ne comprenons plus les choses de Dieu, nous n'entrons plus dans le plan de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Et alors, par quoi cela est-il remplacé? Par une fausse sagesse, par un esprit qui est subverti par sa sensibilité, et la sensibilité va lui montrer les choses sous un jour faux. Nous sommes un peu comme des vaches qui regardent la rivière et qui voient le ciel dans la rivière. Et elles sont persuadées que le ciel est dans la rivière. Nous savons que le ciel est au-dessus, que la rivière n'est qu'un reflet. Alors si vraiment nous sommes persuadés que le ciel est dans la rivière, ben, nous plongeons à l'eau pour aller au ciel, ce qui est le mouvement exactement inverse de celui qu'il faut faire. Mon exemple vaut ce qu'il vaut, il a le mérite d'être clair. Nous sommes subvertis, nous sommes renversés, nous prenons des fausses réalités passagères pour des choses importantes. C'est la première blessure. Elle va avoir d'énormes conséquences. Nous ne goûtons plus les choses de Dieu, nous ne comprenons plus notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la crise actuelle, alors qu'il y a une crise justement de la subversion de l'intelligence, un livre a été écrit sur ce sujet, « L'intelligence en péril de mort » par Marcel de Corte. Et je vous en recommande vivement la lecture. Notre intelligence est quasiment subvertie. Pourquoi? Parce que le démon connaît nos blessures et il a appuyé sur cette blessure. Parce que tant qu'il est dans les autres blessures, et ça c'est très important, tant qu'il est dans les autres blessures, nous pouvons nous guérir par l'intelligence. Quelqu'un s'est fourvoyé. Il réfléchit, il se pose, il prend la carte et il reprend le bon chemin. Si vous l'avez privé de la carte, cela devient déjà beaucoup plus difficile. Mais si vous l'avez privé de l'intelligence, c'est-à-dire s'il a perdu le désir d'aller au but sur le chemin, et qu'il se promène dans la campagne pour se promener sans avoir aucun but, alors à ce moment-là, perdu ou pas perdu, de toute façon, il est perdu. Alors, dans cette crise actuelle, qui est une crise de l'intelligence, dans toute la société, et puis cela est entré même chez les bons chrétiens, avec le Concile Vatican II, qui a complètement subverti l'intelligence, faire croire qu'il puisse y avoir plusieurs religions, faire croire que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ puissent se sauver comme ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais il faut être complètement fou, il faut être complètement anesthésié. Et puis cette crise a pénétré même chez les traditionalistes. Pourquoi? Parce que les traditionnalistes ne se sont pas méfiés. Ils n'ont pas voulu voir qu'ils étaient blessés. Ils ont cru que eux étaient en dehors des blessures du vulgum pecus, du pauvre peuple. Ils se sont persuadés que à eux, on ne la leur ferait jamais. Et faisons attention, parce que nous aussi, nous risquons les mêmes problèmes. Nous aussi, nous risquons de nous faire avoir. La sagesse de Dieu est à l'opposé de la sagesse du monde, et cette sagesse du monde est tellement prenante que, hélas, beaucoup oublient la sagesse de Dieu. La deuxième blessure du péché originel, c'est celle de la volonté. La volonté, normalement, suit l'intelligence, non pas normalement, elle la suit. Elle suit l'intelligence, donc vous vous doutez déjà que si l'intelligence est blessée, la volonté le sera également. Et puis la volonté commande aux puissances inférieures, aux facultés inférieures de l'homme. Et si elle est blessée, elle ne commandera plus. Et c'est la malice. La volonté n'est plus portée vers le bien. Même lorsque l'intelligence lui présente le bien, elle est attirée par les faux biens que la sensibilité lui présente. Tout est à l'envers. Si Adam et Ève étaient restés fidèles, enfin tant qu'Adam et Ève demeuraient fidèles, le simple fait d'être attachés à Dieu mettait de l'ordre dans toute leur nature. Comme un lustre, si vous voulez, qui est attaché par l'anneau au sommet, au plafond, et vous n'avez pas besoin de tenir toutes les branches des lustres, surtout les lustres de l'époque Louis XIV, où vous avez des rangées et des rangées et des rangées de bougies. Eh bien, elles tiennent toutes seules, il suffit que l'anneau soit attaché au plafond. Si vous détachez l'anneau du plafond, surtout si vous le détachez violemment, c'est-à-dire sans poser calmement le lustre à terre, si vous détachez brusquement, eh bien, tout va s'en mêler. Et quand vous voudrez remettre l'anneau au plafond, vous verrez que tout est mélangé, que toutes les chaînes sont mélangées, etc. Eh bien, c'est ce qui s'est produit pour nous. À partir du moment où notre intelligence est coupée de Dieu, où notre âme est coupée de Dieu, la volonté est en désordre, tout est en désordre. Saint Augustin dit « Ton âme à Dieu est ton corps à ton âme. » C'est-à-dire, tant que ton âme est soumise à Dieu, ton corps te sera soumis. Mais à partir du moment où l'âme n'est plus soumise à Dieu, le corps n'est plus soumis à l'âme. Et c'est lui qui commande. Comme un cheval que le cavalier n'arrive pas à maîtriser. Et puis, dans la sensibilité, nous avons deux facultés, l'irascible et le concupiscible. Bon, ce sont des grands mots, ne vous inquiétez pas. Nous avons une faculté qui nous donne la force, qui nous fait attaquer le mal. Et puis, vous avez la faculté qui fait désirer le bien sensible, parce que le bien sensible n'est pas mauvais en soi. Avoir un bon lit quand on a travaillé dur pendant la journée, c'est une excellente chose, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne dormirez pas. Si vous ne dormez pas, vous ne pourrez pas travailler le lendemain. Et que vous soyez heureux de vous mettre dans un bon lit, c'est une bonne chose. Je ne reviendrai pas sur la bière que l'on prend après une journée de travail fatigant. Mais c'est le même principe. Alors, l'irascible est plus important que le concupiscible. Pourquoi? Parce que la force est la vertu et la faculté qui reçoit l'enthousiasme de la volonté et de l'intelligence. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une connivence entre le cavalier et le cheval. S'il y a cette connivence, le cheval est prêt à faire des efforts considérables pour plaire au cavalier, pour aller là où le cavalier va l'emmener. Par contre, s'il n'y a pas cette connivence, alors le cheval n'a aucun intérêt à se donner du mal. Il doit y avoir cette connivence entre notre corps et notre âme, et la vertu de force que nous devrions avoir, l'irascible, la faculté de l'irascible, va faire ce lien et va transmettre au corps cet enthousiasme, va le faire aller jusqu'au bout, et jusqu'au point, même si c'est nécessaire, de se mépriser soi-même, le corps, pour le bien de l'âme, pour la survie de l'âme. C'est par cette qualité que, par exemple, on affronte la mort avec sérénité, sachant que la mort n'est que la mort du corps, et que la vie est la vraie vie, pleine, entière, dégagée de tout souci, nous attend de l'autre côté. Alors, bien sûr, vous vous rendez bien compte que si nous sommes blessés, cet enthousiasme disparaît. Et ce qui disparaît en premier, c'est l'enthousiasme pour les choses de Dieu. La vraie paresse n'est pas de ne rien faire. La vraie paresse est de se précipiter vers des choses de moindre importance en négligeant les choses de l'âme. Il y a une paresse active de gens qui s'étourdissent et qui est très fréquente aujourd'hui parce que il n'est pas possible d'anesthésier complètement l'homme. L'homme se réveille, il aime faire quelque chose, il a envie de faire quelque chose. Alors le monde moderne l'occupe avec des choses qui n'en valent pas la peine et qui le détournent des vraies choses de l'âme, de la vraie vie de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'activisme, qui avait sa conséquence, l'américanisme dénoncé par Léon XIII, cette prédominance de l'activité temporelle, l'activité d'ici-bas, sur l'activité au service de l'âme et de l'éternité. Et enfin, vous avez la dernière blessure, la blessure de la concupiscence, à savoir que, au lieu de prendre une bière, on est tenté d'en prendre deux ou trois, etc. Cette blessure est la plus voyante, la plus honteuse, mais vous voyez qu'elle vient en dernier. Par conséquent, on ne peut pas lutter directement contre elle sans avoir redonné de l'enthousiasme, et on ne peut pas redonner de l'enthousiasme sans avoir remis de l'ordre dans la volonté, et on ne peut pas remettre de l'ordre dans la volonté sans avoir réuni de nouveau l'intelligence à la contemplation de Dieu, à la vérité, à la sagesse de Dieu, à la sagesse éternelle de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la concupiscence, bien entendu, et tous les grands saints nous enseignent, et puis l'Église également nous enseigne le jeûne. Les moines d'Égypte jeûnaient toute l'année, Saint Benoît fait jeûner ses moines à partir du 14 septembre jusqu'à Pâques. L'Église fait jeûner de nos jours tout le carême, enfin jusqu'à Pie XII, et puis avec la crise, ben évidemment, le jeûne a disparu comme le reste. Pourquoi faire jeûner des gens qui ne sont pas blessés? Pourquoi faire jeûner des gens qui peuvent se sauver dans n'importe quelle religion? Ça n'a pas de sens. Et certainement, les hommes d'Église qui ont supprimé le jeûne ne nous ont pas rendu service. Nos grands-parents jeûnaient 52 jours par an. Et les papes se plaignaient que c'était fort peu par rapport aux générations précédentes où l'on jeûnait beaucoup plus. Qu'allons-nous faire? Nous avons la consécration à la Très Sainte Vierge. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que nous portons la grâce dans des vases fragiles. La grâce est belle, la grâce est forte, la grâce est pure, la grâce est incorruptible, mais le corps, le vase qui porte cette grâce incorruptible, ce vase, lui, est très fragile, fictible. Il est en terre et au moindre choc, il se fend et se casse. Alors nous allons nous consacrer à la Sainte Vierge, mais vous voyez bien qu'il n'était pas possible de bien nous rendre compte de la nécessité où nous sommes de nous précipiter dans les bras de la Sainte Vierge si nous n'avons pas compris que nous sommes malades. Nous ne pouvons pas aller au médecin si nous ne nous rendons pas compte que nous sommes malades. Nous ne pouvons pas aller à la Sainte Vierge si nous ne nous rendons pas compte que nous sommes profondément blessés. Alors, j'arrête ici pour ne pas prolonger, vous ferez vous-même les applications. Il y a des applications à faire en éducation, bien entendu. Vous avez dans le traité de la blessure de l'âme tout un traité d'éducation. Il faut prendre les choses en ordre. Le dressage des enfants a pour but de remettre de l'ordre dans tout ce que je vous ai dit. En tout cas, vous serez puissamment aidé, que ce soit pour vous ou pour les enfants, vous serez puissamment aidé par la consécration à la Très Sainte Vierge, Notre-Dame qui est une bonne mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.